Ciné-Club Actu.
Bonjour à tous, vous êtes sur Radio Campus Po et vous écoutez Ciné-Club Actu. Nous sommes Carla,
Camille,
Maxime
et nous allons vous présenter les 5 sorties cinéma et séries du mois de mars.
Alors ce mois-ci, on n'a pas d'invité, donc on va commencer directement avec les actus. Et je vais commencer par vous parler du film Netflix, La Demoiselle et le Dragon, qui est sorti le 8 mars et qui a été réalisé par Juan Carlos Fresnadillo. Et qui raconte l'histoire de Elodie, à qui on a demandé d'épouser un prince, le prince du pays d'Orea, pour pouvoir sauver son pays à elle, qui est appauvrie. Donc alors au premier abord, tout semble aller à merveille, mais dès le début, on sent qu'il y a quelque chose qui cloche. Et en fait, il se trouve qu'ils ont oublié de lui dire qu'il y avait un dragon dans ce pays, et que longtemps auparavant, ce dragon... les trois petits, ils avaient été tués par le roi. Et que le roi, il a demandé au dragon de l'épargner, évidemment, parce que le dragon aurait pu l'exterminer en 30 secondes. Et donc, il lui a dit que en échange, il voulait ses trois filles en sacrifice. Et alors, ça continue jusqu'à Elodie, qui, en fait, est un de ses sacrifices. Alors, je vais pas en dire plus, parce que bon, on va pas spoiler le film, quand même. Et je vais être honnête, j'ai pas eu le temps de le finir parce que, ben, bon voilà quoi, les cours. Mais franchement, il est très bien. Puis Millie Bobby Brown, elle est très bonne dans son rôle. Bon, Millie Bobby Brown, je pense qu'on la présente plus. Stranger Things, Enola Holmes. Plutôt connue quand même maintenant. Je trouve que c'est un peu original d'avoir inversé le rôle classique des histoires avec la princesse qui se fait sauver du dragon. Oui. Là, elle se sauve toute seule, donc on aime.
She's an independent woman.
Moi, c'est un film Netflix. Honnêtement, vous m'auriez pas dit que ça sort sur Netflix, je l'aurais deviné. Quoi. Je sais pas pourquoi le film fait très Netflix en fait.
Oui, je... Déjà, il y a Millie Bobby Brown, je pense qu'elle a pas fait grand chose
à partir de là. C'est vrai. Moi j'aimerais bien qu'elle fasse des films un peu plus marquants.
Ouais.
Dans le sens où par exemple Enola Holmes, j'aime pas vraiment. Je sais pas.
Moi j'ai pas regardé parce que je sais pas.
Moi j'ai bien aimé.
Même si j'aime bien tout ce qui est Sherlock et tout ça, je sais pas, ça m'a pas attiré. Pourtant, j'ai lu un livre Enola Holmes. Donc.
Moi j'avais bien aimé.
Oui, mais au moins bon, c'est une star. Ça fait plaisir d'avoir des jeunes stars comme ça.
Ouais.
Et puis ça change des rôles qu'elle a d'habitude.
C'est ça. Oui, c'est une autre. Comment dire setting en anglais, une autre époque, une autre...
Ouais.
Voilà, c'est intéressant. Voilà, disponible sur Netflix, du coup.
Oui.
Vous pouvez le regarder
quand
vous voulez, ce soir, demain, après-demain, tout le temps.
Il n'est pas très très long, en plus. Enfin, ça va, ça fait 1h50, je crois, donc c'est raisonnable.
Ouais, ça va, ça se regarde bien.
Ouais. Le deuxième film dont je vais vous parler, c'est Il reste encore demain, réalisé par Paola Cortellesi, sorti le 13 mars. Dans les années 50 en Italie, face à son mari autoritaire et violent, Della ne trouve du réconfort qu'auprès de son amie Marissa, avec qui elle partage des moments de légèreté et des confidences intimes. Leur routine morose prend fin au printemps, lorsque toute la famille en émoi s'apprête à célébrer les fiançailles imminentes de leur fille aînée, Marcella. Cependant, l'arrivée d'une lettre mystérieuse va tout bouleverser et pousser Della à trouver le courage d'imaginer un avenir meilleur, et pas seulement pour elle-même. Alors, c'est un film italien. C'est la première réalisation de Paola Cortellesi, qui est également actrice principale et scénariste. Et justement, c'est une grande actrice italienne. Alors, c'est un film qui est entièrement noir et blanc et qui dure 1h58. Et c'est un film qui a beaucoup fait parler en Italie. Il a fait 5 millions d'entrées. Donc, à titre de comparaison, l'année dernière, Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu, le fameux, il avait fait 7 millions d'entrées. Donc, vous voyez, c'est... près équivalent, vous voyez, c'est un gros box-office pour un film italien. Et d'ailleurs, c'est le 9e film italien le plus rentable de tous les temps. Voilà. Et en fait, ça a donné lieu à des débats sur la place de la femme dans la société et les violences conjugales, parce que du coup, le mari de Della, le personnage principal, là-bas, vu qu'on est dans les années 50, il y a un filtre. Années 50, mais qui parle d'aujourd'hui en fait. Et d'ailleurs, il a même été projeté au Sénat italien, donc vous voyez, c'est important. Il a été projeté, il y a eu des tournées de projection avec du coup la réalisatrice auprès de classes de collège, lycée. Ça a beaucoup fait parler. Du coup, moi je suis allé le voir, il est sorti au 13 mars. dans les salles de cinéma. Et c'est vrai que c'est vraiment un film assez superbe. C'est super bien écrit pour le sujet que ça traite. Ça reste assez poétique, mais aussi ça traite vraiment de son sujet, qui est c'est-à-dire la violence conjugale et comment dire, ce que peuvent ressentir les femmes au quotidien. C'est assez bien écrit. Et surtout, il y a une superbe bande originale italienne, pleine de belles musiques qui s'accordent bien avec, avec ce qui est filmé. Et le noir et blanc est magnifique. Vraiment, je trouvais la réalisation super réussie. Pour une première réalisation, c'était vraiment très bien fait. Voilà. Donc, si vous voulez savoir un petit peu ce qui anime nos amis transalpins, comme on dit, italiens, allez voir le film, il est en salle. Voilà.
Donc, maintenant, on va parler du film Immaculée, qui a été réalisé par Michael Moran et qui est sorti le 20 mars au cinéma. Et il a été co-réalisé par Sydney Sweeney, qui joue, qui a également un rôle dans ce film. On a parlé d'elle le mois dernier avec le film Madame Web, mais cette fois-ci, elle incarne le rôle de Cecilia, une bonne sœur qui est accueillie dans un couvent isolé en Italie. Petit à petit, elle va se rendre compte que ce qui se passe, qu'il se passe des choses vraiment très bizarres dans le couvent où elle est. Et elle va découvrir en fait qu'il y a plein de secrets dans ce couvent. Donc, aux côtés de Sydney Sweeney, on retrouve un casting 100% italien, avec notamment Alvaro Morte, connu pour son rôle d'El Professor dans la Casa de Papel.
J'avais vu qu'il était dedans, mais je savais pas qu'il était italien. C'est ça qui me choque le plus.
Mais c'est vrai, il est italien.
Il est italien,
mais oui. Non,
mais oui.
Mais c'est une honte.
Il parle combien de langues?
Mais non, mais.
Bah écoute.
D'accord.
Il s'appelle El Professor, il a un surnom espagnol, mais il est italien.
C'est vrai que dans la série, il va quand même plutôt pas mal d'Italie, mais du coup, il connaît la chanson...
Oui.
Ah oui, Bella.
Oui.
Ciao,
ah,
et tout ça,
oui,
parce
oui,
que
oui.
Italie, quoi.
Et Simona Tabasco, bon, le nom de famille, voilà, qu'on retrouve dans la série Doc. Donc, petit disclaimer, si vous êtes hémétophobe, évitez de le regarder parce qu'il y a quand même pas mal de sang... Et sinon, dans la globalité, je trouve l'ambiance assez bonne. Enfin, c'est le style de film d'horreur que j'aime bien regarder. Parfois, ça fait un peu peur. Parfois, enfin, je sais pas. Ça met dans une ambiance...
Film d'horreur.
Ouais.
Je trouve ça passionnant comment la religion chrétienne, en tout cas en Europe, se marie oui. bien au style d'horreur.
Oui, c'est vrai.
Vous savez, ça me fait penser. Ben, j'avais vu La Nonne il y a quelques mois. C'est drôle comment, a priori, ça n'aurait aucun rapport. Mais le mélange se fait trop bien. Vous savez, le couvent, les monastères, les sœurs, les nonnes, tout ça, ça marche super bien avec.
Bah, disons que. C'est...
Je pense que c'est parce qu'on a beaucoup d'endroits abandonnés.
Oui, puis il y a un aspect mystique à la religion aussi qui marche bien avec l'horreur.
Puis même une église de nuit, ça fait très austère. Ça fait très. Voilà. Mm-hmm. Puis même aller dans un cimetière la nuit, c'est pas fou. C'est pour ça que c'est...
bien horrifique, ouais.
Mais c'est même comme toutes les choses des enfants. On va en parler dans notre film d'horreur. Mais toutes les choses des enfants, ce qui est les poupées...
Ça me terrifie.
Mais voilà, maintenant, tout le monde a peur des clowns, des poupées à cause des films
d'horreur. Ah non, les clowns, non, mais les poupées, j'ai toujours eu peur. Ça me terrifie.
Mais c'est drôle, ça, quand même. C'est intéressant, comment le style de l'horreur se marie à des choses qui n'auraient normalement rien à voir.
Mais c'est vrai.
C'est fantastique. C'est le cinéma,
on pourrait faire une thèse, mais on n'a pas le temps.
Non, clairement pas.
Ça fait plaisir de retrouver Sydney Sweeney aussi.
Oui.
Qui enchaîne les grands films, visiblement.
Oui.
Tout sauf toi, que j'avais bien aimé.
Oui.
Madame Web, que j'ai pas vu, mais bon. Pas eu des bonnes critiques.
Ouais.
Et maintenant, Immaculée.
Elle avait fait une série sur Netflix qui avait été annulée, évidemment. Qui s'appelle Everything Sucks 2018. Ensuite, elle avait fait Euphoria.
Oui, mm-hmm. Elle a été connue un peu, elle a un peu monté dans le
monde. Ouais, elle monte là, vraiment.
Ouais, franchement.
Oui, oui, elle est en train de devenir une star.
Puis dans des rôles très différents, donc ça prouve qu'elle est forte.
Ouais, oui. Dans une interview il y a pas longtemps, elle a dit que justement, elle veut pas tout le temps avoir les mêmes rôles, elle préfère en avoir des différents.
Ben, ça montre l'impact de Euphoria aussi.
Oui.
Parce que il y a quand même eu, bon, certes Zendaya, mais elle est devenue très connue en tant qu'actrice. Peut-être avec ce film, je sais pas. Avant, elle était déjà connue, mais elle s'est affirmée avec Euphoria, j'ai l'impression. Comme actrice sérieuse, quoi. Non ?
Zendaya, je sais pas. Après, elle était très connue parce qu'elle était sur Disney Channel, quoi.
Voilà. Oui, voilà. Mais avec Euphoria, j'ai l'impression qu'on s'est rendu compte qu'elle pouvait jouer du drame et tout ça.
Oui.
Pareil avec Jacob Elordi. Maintenant, oui. Sydney Sweeney, vous voyez,
il y a
un impact vraiment de cette série. Mmh. C'est intéressant.
Et donc, du coup, on va continuer dans les films d'horreur. Je vais parler de Imaginary. Donc, c'est sorti le 6 mars. C'est un film d'horreur américain produit par Jeff Wadlow. Et ça raconte l'histoire de Jessica, qui revient s'installer dans sa maison d'enfance avec son mari et ses deux belles-filles, Alice et Tyler. Donc la plus jeune, Alice, découvre un ours en peluche dans la cave de la maison avec lequel elle se lie d'amitié. Alors au début, il trouve que c'est mignon, mais ça finit rapidement par Jessica finit rapidement par découvrir que cet ami imaginaire, il est pas inoffensif, c'est très bizarre. Et donc, voilà, je vais pas en dire plus. Donc, c'est un film d'horreur à thématique plutôt classique, mais c'est bien. Les critiques, elles sont très décourageantes, du moins en France. Apparemment, aux États-Unis, c'est mieux, parce que c'était quand même assez attendu. Mais en France, sur Allociné, vous regardez, il y a 2 sur 5. Bon, à mon avis, ça ne le mérite pas, mais après, chacun doit y aller pour pouvoir se faire son propre avis. La seule critique que je comprends de ce qu'ils disent, c'est le doublage en français, qui est horrible. Mais donc, si vous pouvez essayer d'aller regarder en VO, peut-être que ça rendra
mieux.
Ouais, peut-être que les gens apprécieront plus le film.
Mmh.
Mais voilà. De toute façon, en règle générale, essayer d'aller voir en VO, c'est mieux.
Oui, oui, c'est vrai.
Après, je pense que les gens, ils n'ont pas trop aimé aussi parce que ça fait très Chucky le fait de retrouver quelque chose dans une maison. Enfin, c'était dans un sous-sol ou dans.
Oui, évidemment.
Dans la cave. Ça reprend vraiment l'histoire de Chucky, en fait. Donc, c'est pour ça.
Un classique, quoi. Ouais. Enfin,
c'est revisité.
Oui, oui. Mais je pense que les fans d'horreur, ils trouveront leur compte. Ils sont habitués à ce genre de films.
Oui, oui.
Puis, de toute façon, je trouve les films d'horreur, c'est quand même toujours plus ou moins les mêmes types de choses. Soit c'est l'univers de la religion chrétienne, soit c'est une poupée, soit c'est un clown, soit c'est...
Oui, c'est rare les films qui sortent du moule. Et les films qui sortent du moule, justement, sont très reconnus. Je pense à Midsommar, par exemple.
Oui.
C'est des films qui sont assez connus, du coup.
Oui.
Voilà. Mais, ou alors Conjuring, à leur époque aussi, quand ils sont sortis.
Oui.
Ben, voilà. C'est des films qui marquent et qui sont assez connus.
Mais du coup, il y a Smile aussi. Ça n'a rien à voir avec la religion ou quoi que ce soit. Bon... Mais c'est...
Mais justement, les films généralement d'horreur qui sortent un peu du moule comme ça, généralement on en entend bien parler, ils font beaucoup d'entrées.
Ouais.
Et voilà. Généralement, c'est bon signe quand on entend parler d'un film d'horreur.
Bah oui.
Voilà.
Voilà. Donc n'hésitez pas à les regarder, c'est sympa.
Ouais. Le prochain film, un autre film d'auteur, The Sweet East, réalisé par Sean Price Williams, qui est sorti le 13 mars. Alors Lillian, une étudiante de Caroline du Sud, découvre le monde lors d'un voyage de classe à Washington. Séparée de ses camarades de classe, elle s'embarque dans un voyage itinérant à la recherche de l'Amérique. Alors, c'est l'actrice Talia Ryder, je ne connaissais pas, dans le rôle principal. Et en rôle secondaire, il y a Jacob Elordi et Ayo Edebiri, qui a dans la série The Bear, sur Disney+, que je n'ai pas vu, mais qui a des très très bonnes critiques. Alors, je vous invite à aller la voir. Alors, c'est le premier film de Sean Price Williams. Alors, certes, c'est son premier film, mais c'est un directeur de la photographie sur plein d'autres films. Depuis les années 2000, il travaille, et là, c'est son premier film. Du coup, ça peut être intéressant de voir ce qu'il a proposé. Il avait été présenté au dernier Festival de Cannes l'année dernière, et il y avait eu des très bonnes critiques, à environ 4 sur 5 de moyenne, à peu près, je dirais, dans les critiques presse, tout ça. Moi, je ne l'ai pas vu, malheureusement, puisque je n'ai pas le temps. Mais... la bande-annonce m'a donné bien envie, ça a l'air bien sympathique, ça permet de découvrir un nouveau réalisateur, des acteurs, enfin Talia Ryder, je ne connaissais pas du tout, des nouveaux, du coup des acteurs que je ne connaissais pas. Voilà. C'est... Ouais. Voilà. Allez,
des nouveaux films comme ça, qui sortent du lot un peu.
Voilà. Exactement.
Donc pour le dernier film, on va parler de Kung Fu Panda 4, qui sort 8 ans après le dernier.
J'ai trop hâte.
Ouais. Et eh bien, il sort aujourd'hui.
Oh, quand on enregistre le podcast.
C'est ça.
Ça veut dire que vous, quand vous écouterez le podcast, il sera déjà disponible dans le cinéma.
Oui.
Et que donc, après avoir fini Ciné Club Actu, vous vous ruerez vers le cinéma le plus proche pour voir Kung Fu Panda 4.
Il y en a dans notre classe qui ont fini les cours et qui sont directement allés le voir.
Ah ben, ça ne m'étonne pas.
Du coup, il sort le 27 mars, aujourd'hui. Il a été réalisé par Stephanie Stein et Mike Mitchell. Et on y retrouve évidemment notre panda préféré, Po. Dans le dernier volume, celui-ci venait de retrouver sa famille. Mais cette fois, on part sur toute autre chose. Donc, c'est le moment, en quelque sorte, pour Po de prendre sa retraite, de se reposer. Et de devenir chef spirituel de la Vallée de la Paix. Mais pour cela, il doit entraîner un nouveau guerrier dragon. Sauf qu'il y a une nouvelle menace qui arrive, Caméléon, une lézarde qui peut se métamorphoser en n'importe quelle créature. Elle veut prendre possession du bâton de sagesse de Po, qui lui permettrait de réinvoquer tous les maîtres maléfiques du royaume des esprits, dont le plus connu étant Tai Lung. Donc, dans les voix françaises, je sais qu'il y a Manu Payette. Et par contre, dans les voix originales, on a Jack Black ou encore Viola Davis qui prête sa voix au personnage de la Caméléon. Donc, c'est un petit dessin animé comme ça qui fait plaisir, qui fait ton... Je sais pas, ça...
C'est bien de t'entendre.
Ouais, c'est le retour non seulement de Kung Fu Panda... C'est-à-dire, je ne m'attendais pas à ce que ça revienne. Je me suis dit, c'est une trilogie, voilà. C'est plaisir de voir un quatrième Kung Fu Panda. Et aussi, c'est le retour de DreamWorks. Je crois que c'est DreamWorks.
Oui,
DreamWorks,
oui.
On n'en parle pas souvent, mais qui est en train... Ils font beaucoup de bons films en ce moment.
Ouais.
Oh, quand même, c'est plutôt connu.
Oui, mais ce que je veux dire,
ouais,
c'est
que ça faisait longtemps
DreamWorks,
qu'on n'avait pas...
On dit qu'il y avait un âge d'or avec Shrek et tout, puis c'est un peu disparu, c'était l'époque des trolls et tout ça, moi j'aime pas trop. Mais là récemment, ils ont fait un dessin animé, les Bad Guys, je crois. Ça c'est en anglais, je sais plus comment ça s'appelle en français. Sur une équipe de cambrioleurs animaux qui était assez super bien.
Ah oui.
Et ils ont fait surtout la suite du chapeauté, la dernière quête. Je crois que j'en avais parlé dans un vieux podcast, mais
l'un des premiers.
Je ferai la pub de ce film. Je sais qu'il est assez connu déjà, mais il faut le regarder. Il est génial. La suite du chapeauté, elle est incroyable. Et j'ai l'impression que DreamWorks sont repartis sur une série de films géniaux. Là. Donc, j'espère qu'on vous prendra 4. Ça sera aussi bien que Chapeauté 2. Parce que vraiment, j'avais été émerveillé par le Chapeauté 2.
Ouais.
J'avais adoré. Je viens d'aller voir les critiques. Bon, elles sont pas très bonnes, mais bon, n'écoutez pas les critiques. Voilà.
Allez regarder.
Voilà,
c'est pas grave.
Mais de toute façon, les gens sont aigris. C'est ce qu'on était en train d'en parler en antenne. On me disait qu'en fait, ce qui était marrant, c'est que sur les sites de critiques américains, ou enfin anglais en général, ou d'une autre langue, les notes étaient toujours plus élevées que sur les sites français.
C'est
ça
vrai.
Approuve. C'est bien la partie à de notre culture.
À moins que les Américains soient trop gentils.
Ou trop faux cul.
Mais voilà.
On a quand même une réputation.
Ouais.
Elle est peut-être fondée.
Oui.
Bref.
On
le quatrième Kung Fu Panda, ça fait plaisir.
On attend Shrek maintenant, le prochain.
Shrek 5 un jour.
Il serait
temps. Je crois qu'il est en préparation.
Oui, mais ça fait des années qu'il est en préparation.
Oui.
Il faudrait se bouger là.
Un jour il va arriver, mais c'est sûr qu'il va arriver dans le sens où le chapeau des deux, je vais pas spoiler la fin, mais bon.
Oui, c'est vrai.
Ça laisse présager.
Voilà, c'est un gros sous-entendu.
On espère vraiment qu'il se dépêche là.
Je pense que ça va arriver quoi, parce que DreamWorks, c'est comme Pixar. Quand ils veulent de l'argent, il faut une suite et voilà.
Bah, c'est sûr.
Voilà.
On passe aux actus.
Passons aux actus. Le dernier podcast, on parlait des nominations aux Oscars. Du coup, on a eu les résultats puisque la 96e cérémonie s'est tenue le 10 mars. Et il y a eu une razzia d'Oppenheimer, puisqu'en plus du meilleur film, le film a également obtenu les statuettes des meilleurs réalisateurs, meilleur acteur dans un second rôle, meilleure bande originale, meilleure photographie, meilleur montage. Et ce qui est fantastique, c'est que tout ça est mérité. Là où l'année dernière, Everything Everywhere All at Once, j'avais un peu de mal, parce que je trouvais qu'il y avait des films objectivement meilleurs. Même si j'aime bien Everything, Everywhere, All at Once.
C'est très long.
Oui. Tandis qu'Oppenheimer, moi je suis un grand défenseur, du coup je suis assez content de voir qu'il ait eu tout ça.
J'ai pas vu les résultats, mais est-ce que Killers of the Flower Moon a quand même...
Ils ont eu, tenez-vous bien, 0 Victoire.
Non, déçu. Sérieux.
Il y a eu une petite polémique, du coup. Parce que pour la meilleure actrice, on pensait que Lily Gladstone, on en a parlé dans les podcasts, oui, allait gagner justement la statuette. Ça aurait été super, en plus, pour la communauté osage, oui, tout ça.
Mais oui.
Malheureusement, Emma Stone l'a gagné pour Things, et
ouais,
c'est mérité. Mais c'est, oui, sûr que ça n'envoie pas un très bon message, ma foi, de snobber. Déjà, snobber le vieux maître Scorsese, oui, 83 ans, légende du cinéma, il va plus nous quoi dire, il va plus nous sortir beaucoup de films. C'est dommage de le snobber, alors que voilà. Et puis surtout, ouais, snobber Lily Gladstone, dommage. Même si c'est au profit d'Emma Stone qu'il mérite aussi. Mais
oui, voilà, oui, c'est vrai que...
Emma Stone qui, du coup, a obtenu sa seconde statuette de meilleure actrice après La La Land... Pour Things, il y a également 3 autres victoires pour Pauvre Créature, donc en VF. Meilleur décor, meilleur maquillage et meilleur costume. Parce que Pauvre Créature, c'est génial. Et c'est vrai que la production design, comme on dit, de Pour Things est incroyable. Les costumes sont fantastiques.
Oui, franchement.
Et les décors aussi.
C'est un bon film, hein, aussi.
The Zone of Interest également a eu 2 victoires. Meilleur film étranger, puisque c'est un film britannique. Et meilleur son. Il y a eu d'autres victoires notables. Meilleur scénario original. Un Oscar français, Anatomie d'une chute. Enfin, je crois que le dernier Oscar français, c'était 2011, The Artist, avec Jean Dujardin.
Ah, c'est possible.
Ça fait donc 13 ans sans Oscar. Ça fait bien plaisir, quand même.
Ouais.
Pour Anatomie d'une chute, qui a également eu le César du meilleur film.
C'est bien qu'on parle d'un film français, bien, ouais, parce que souvent, ceux dont on parle beaucoup...
C'est ça.
Ouais.
Ça me fait vraiment plaisir. Puis, c'est une radia, quoi. Palme d'or,
oui,
César du meilleur film... un carton en termes d'entrée et de box-office en France, ce qui est rare pour un film d'auteur. Et en plus, un Oscar.
Ouais, magnifique.
C'est fantastique, honnêtement. Merveilleux. Fantastique.
Magnifique.
Il faut continuer comme ça.
Voilà, vraiment, ça fait très plaisir. Également, Le garçon et le héron de Miyazaki, meilleur film d'animation. Totalement mérité. J'adore Le garçon et le héron. J'adore.
J'adore les Miyazaki tout court.
Oui. Et la meilleure chanson originale, c'était... donc de Billie Eilish pour Barbie, What Was I Made For. Personnellement, je préfère M. Jusken, mais c'est sûr que donner à Ryan Gosling, alors que c'est un film qui est entièrement porté par des femmes, je comprends, ça aurait été un mauvais message. Ouais. Et c'est vrai que la chanson de Billie Eilish est pas mal aussi.
Elle est quand même plutôt incroyable et c'est pas, oui, du tout le même objectif. M. Jusken, c'est vraiment très ironique.
Voilà,
tandis,
oui, que c'est vraiment très profond.
What
la
I Made
de
For, c'est vraiment très puissant. Quoi.
Ouais. Exactement.
C'est puissant.
C'est profond. C'est...
Mais toutes, exactement, les chansons de Barbie, vraiment, a une bande originale incroyable.
Oui,
oui,
absolument.
Il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas le film et je peux comprendre, mais la bande originale, quand même. Il y a eu gros efforts là-dessus. Et
oui, 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 absolument. Et ce qui est bien, c'est que ça mélange bien la bande son. À la fois, genre les hits pop et tout, genre je pense à la chanson de Dua Lipa, la Dance the Night.
Ouais.
À la fois les musiques un peu ironiques comme I'm Just Ken et à la fois les musiques plus profondes comme celles qu'on vient de,
oui,
lire de,
oui,
Billie Eilish. Je trouve que ça mélange,
mais en,
bien.
En fait, c'est un peu tout le film, quoi. Il y a des moments qui sont très,
oui,
drôles.
Oui,
mais
c'est ça.
Le fond est quand même très...
Mm-hmm.
Faut regarder au-delà.
Ça fait plaisir, oui, quand il, ouais, y a des films qui justement se décarcassent pour faire une musique originale comme ça,
ouais,
aussi. C'est la même chose pour les films Spider-Man animés, le Spider-Verse.
Oui.
Là, donc c'était le producteur Metro Boomin qui avait ramené plein de figures du hip-hop et tout ça pour faire des chansons pour le film aussi. Ça fait plaisir de voir quand,
oui,
on se décarcasse un peu pour produire des albums entiers autour de films comme ça. Ça fait plaisir.
Bah, ne serait-ce que par exemple en termes de série, bon, Heartstopper, la BD, tout le monde. Enfin, on pourrait regarder juste la BD, quoi, et pas regarder la série. Mais ce qui fait que la série est aussi bien que la BD,
non, les musiques.
C'est la musique, parce que en fait, c'est adapté à ce qui se passe dans la scène.
Mais
c'est assez incroyable.
Oui, oui.
C'est impressionnant.
Et il y a des fois, on se dit, mais la chanson, elle a été écrite pour ça.
Oui,
absolument.
Enfin, bon, Barbie, dans ce cas-là, ça a vraiment été écrit pour ça, mais...
Oui, oui, oui.
Ouais, mais Greta Gerwig, sur
une
ça,
une
fin
très
vraiment...
touchante à Barbie, avec cette,
oui,
musique,
oui,
de Lily, justement.
C'est vrai.
Ouais, très bien.
J'ai hâte de voir ce que Greta Gerwig va faire d'ailleurs. Alors,
ben,
c'est
Narnia,
Narnia, oui.
Narnia,
oui.
À voir. Oui.
Narnia.
Ouais, c'est vrai.
J'ai assez hâte de voir, mais j'espère qu'elle va pas être occupée des années à Narnia, parce que Narnia, c'est long à adapter.
Ouais.
J'ai pas envie,
mais,
que Greta,
mais déjà,
Gerwig.
Qu'est-ce qu'ils vont faire de Narnia, parce qu'il y a quand même eu 3 films déjà.
Il y a déjà eu 3 films.
Oui,
oui,
mais justement, ça va être un reboot Netflix. Mais après, non, mais honnêtement, je comprends, mais comme c'est Greta Gerwig qui écrit,
c'est
le
ça,
script et tout. Encore une fois, c'est comme... Ça me rappelle Barbie quand on en parlait. À chaque fois, les gens, ils rigolaient. Bah, un film Barbie, oh, ça va être nul et tout. Mais nous, on savait que ça allait être Greta Gerwig. C'est une vraie autrice derrière, en fait. Donc on sait que ça va être une proposition intéressante, profonde.
Quand tu dis Greta Gerwig, tu te doutes que normalement ça devrait être sympa.
Ben c'est ça.
Logiquement,
ça aurait été un film Barbie avec un réalisateur ou réalisatrice de studio qui n'avait pas fait beaucoup de films et tout. Ouais, j'aurais douté.
Mais apparemment, ils avaient pris une actrice avant. Ils voulaient une actrice pour Barbie avant que Greta Gerwig ne soit nommée réalisatrice. Et cette actrice avait dit non parce qu'elle pensait que ça allait être un film ridicule, pas assez féministe. Je pense qu'elle a dû se mordre les doigts quand elle a vu que c'était...
Ben non, mais heureusement, en vrai, parce que le casting de Barbie, je trouvais parfait. Oui. Dans le sens... Mais vraiment, je trouve Margot Robbie et Ryan Gosling, c'est l'incarnation même de Barbie. Oui, c'est... Fait, genre, c'est du casting parfait, quoi.
Ils font même la blague dans le film.
Mais oui, c'est ça. Je trouve...
Ils ont été faits pour ce rôle.
Oui.
Et du coup, pendant la cérémonie des Oscars... Malheureusement, il n'y avait pas de grands moments, beaucoup. Enfin, tant mieux, en vrai, du coup, c'était une cérémonie assez calme. Parce que du coup, on parlait des Golden Globes le mois dernier. Et justement, il y avait eu des blagues assez mauvaises du présentateur. Justement, là, ça tenait la route, là, pour une fois.
Ils ont essayé de faire carré cette année.
C'est ça.
Ils se sont dit, sinon, ils vont se faire démonter comme se sont fait les Golden Globes.
Comme on dit, pas de nouvelles, bonnes nouvelles, je pense.
Oui, c'est sûr.
Il y a eu cependant les différentes musiques qui ont été performées. Du coup, il y avait Billie Eilish qui a chanté ça. Il y a eu une performance aussi de la communauté Osage pour une musique qu'il y avait dans Killers of the Flower Moon. Et également Ryan Gosling, du coup, qui a chanté I'm Just Ken. Un moment incroyable. Puisque déjà, il y avait tous les acteurs de Ken qui chantaient, qui faisaient une chorégraphie derrière lui. Il y avait Ryan Gosling qui chantait et qui chante hyper bien d'ailleurs.
Mais oui,
il a fait chanter du coup Greta Gerwig, Margot Robbie et Emma Stone. C'était super drôle, honnêtement. Ouais. Il a.
Non, mais il avait aussi fait une version Noël de I'm Just Ken.
Oui, c'est vrai. J'avais oublié. Hilarant.
Non, mais oui.
Et Ryan Gosling qui va sortir un film en mai, je crois, The Fall Guy avec Emily Blunt sur un cascadeur. Lui, il incarne un cascadeur dans un film d'action par le réalisateur de Bullet Train. Je ne sais pas si vous avez vu Bullet Train.
Oui, j'ai vu la bande-annonce de The Fall Guy.
Mm-hmm.
Et c'est je pense que ça va être très drôle.
Oui.
Et je trouve que Ryan Gosling reste un peu dans sa lignée de...
J'ai l'impression que Ryan Gosling, il y a quelques années, il faisait surtout du cinéma d'auteur. Il avait fait La La Land, il avait fait First Man et tout, et Johnny Armstrong. Là, j'ai l'impression qu'il a... Il a vraiment changé, il a juste envie de s'amuser.
Ouais, mais c'est très drôle.
Vous voyez, même Ken, en fait, vous le voyez dans ses interviews et tout, il était vraiment sur un nuage, il est dans son monde.
Mais il était à fond dans son rôle, en fait.
Il est vraiment dans son monde, maintenant, Ryan Gosling, il est parti.
Mais tant mieux.
Ah ouais, ça me fait plaisir. Hein. Mais,
S'il s'épanouit dans ce qu'il fait.
C'est ça.
Ça doit pas être drôle tous les jours, quand même.
Oui, mais après, bon, quand vous êtes Ryan Gosling, vous avez le pouvoir de faire n'importe quel projet que vous voulez. Je pense que.
Oui.
Par rapport, ouais.
Non, mais il a peut-être envie de juste faire des trucs drôles et il est doué pour ça.
Il a envie de s'amuser. Je pense qu'il a été sérieux pendant tellement de temps, maintenant il doit se dire j'ai le temps, je peux m'amuser un petit peu. Voilà.
Ouais. Il a bien raison.
Yep.
He's enough.
On a des nouvelles sur le biopic de Bob Dylan. Il s'appellera A Complete Unknown et il est réalisé par James Mangold qui a dernièrement réalisé Indiana Jones et le cadran de la destinée.
Qui est nul.
Oui.
Le dernier Indiana Jones.
Oui,
mais
il est...
Il a fait Le Mans 66 en 2019 avec Christian Bale et Matt Damon,
et
qui est génial.
Et ça, c'est un bon film.
Il a fait Logan, qui est génial aussi. Oui. Il en a fait James Mangold.
Voilà. Juste Indiana Jones, c'était pas fou.
Jones, c'était pas possible. C'était pas à faire. C'était pas à faire.
Donc, on connaît déjà qui est-ce qui incarnera Bob Dylan et ce sera Timothée Chalamet. Donc, après Wonka et Dune, il s'attaque à une légende du rock, Bob Dylan. Mais pour l'instant, on n'a pas plus d'infos. Donc,
On a juste. On sait que ça va se passer au début de la carrière de Bob Dylan.
Oui, ce sera le début, ouais.
Voilà. Et on a eu des photos de tournage aussi.
Oui, je les ai vues.
Ouais, de Timothée Chalamet. Vous pouvez aller voir ça sur Internet. Un Bob Dylan.
Ça lui va bien.
Il lui ressemble vraiment.
Mais oui, c'est impressionnant. C'est vraiment réussi. Bob Dylan, toujours vivant, 83 ans.
Et il fait toujours des concerts.
Oui.
Pour moi, c'est un des plus grands musiciens encore en vie. Enfin, je veux dire. Je réfléchis de temps en temps aux légendes musicales encore en vie. Pour moi,
il y a
Bob Dylan, peut-être Stevie Wonder et Paul McCartney.
Oui, c'est vrai, oui.
Et Bob Dylan, il fait toujours des concerts quasiment tous les jours. Il sort toujours des albums. Ça fait depuis les années 60 qu'il est là.
Ça le fait vivre aussi,
légende.
C'est peut-être
c'est ça
qui le fait tenir debout. Hein.
Et c'est génial d'avoir un biopic avec Timothée Chalamet. J'ai hâte de voir ça personnellement. Ce qui il est enchaîne. Bien, c'est que ça contente à la fois les fans et à la fois ça va apprendre aux gens qui savent pas trop
qui
est Bob Dylan. Et en plus, je fais assez confiance parce que Timothée Chalamet, déjà, il fait pas n'importe quel film, il lit les scripts, quoi. Il va pas se mettre dans un film nul, quoi. Et aussi James Mangold, alors certes, il a fait Indiana Jones, mais c'est quand même un très bon réalisateur qui a une vision. Je lui fais confiance. Voilà.
On espère que ce sera un bon film.
Ouais. Sorti l'année prochaine, je pense, du coup. Vu que c'est un tournage actuellement.
Oui, je pense.
Je pense que ça sera.
J'ai pas vu quelque date de sortie, mais ouais, je pense l'année prochaine.
Ouais, on a hâte.
Ouais, la post-production, ça prend un moment quand même.
Oui.
Normalement.
Oui, puis là, on est début.
Ce sera pas début l'année prochaine, ce sera sans doute fin peut-être d'année.
Peut-être l'été pour faire. Oui. Les gens vont plus au cinéma l'été. Ouais. On verra.
Ouais.
On verra. Voilà.
Prochaine actu.
Alors. Le premier teaser de l'adaptation au cinéma de Woodwalker, qui est adapté d'une série de romans pour jeunes adultes, ils viennent dévoiler. Et apparemment, si j'en parle, c'est parce qu'il est déjà considéré comme peut-être étant le digne successeur d'Harry Potter. Donc alors, c'est adapté d'une série de romans pour jeunes adultes qui a été un best-seller en Allemagne, qui a été écrit par Katia Brandis. Et ça va donner naissance à une trilogie cinématographique, pardon. Donc c'est 9 tomes. Et il y en a 3 qui ont déjà été édités en France par Pocket Jeunesse. Donc voilà, si vous voulez les lire et regarder le trailer, faites-le. Donc ça raconte l'histoire de Karag, un métamorphe, mi-animal, mi-humain, qui est fasciné par la ville. Et le jeune garçon est puma. Il rêve de quitter ses montagnes natales pour aller vivre parmi les humains, même si ses parents ne veulent pas. Et donc voilà.
Vous avez entendu parler des livres, vous les avez lus
Non, mais apparemment j'ai vu la nouvelle que ça pourrait être un nouveau Harry Potter, ça pourrait devenir très célèbre, donc
je vois.
Je pensais que ça méritait d'être mentionné quand même.
Bien sûr. Ok, ouais, ça peut être intéressant, une nouvelle saga. Oui. Ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu de saga
adaptée. Vrai.
Et je pense que le public est en manque d'ailleurs. Quand j'ai vu le succès de Hunger Games, le préquel,
oui.
J'ai vraiment eu l'impression que les gens sont en manque de saga comme ça, d'adapter de...
Ben les dystopies.
Ouais. C'est ça, mais voyez, il y en a eu beaucoup.
Les années des 2000, là. Ouais, c'était l'âge d'or 2012-2015, par là.
C'est ça,
ouais.
Mais j'ai l'impression qu'il y a une nostalgie ou alors juste un manque naturel des gens. Ils ont envie d'avoir des sagas comme ça. Ben d'ailleurs, le succès de Percy Jackson sur Disney+, illustre ça aussi.
Évidemment.
Bon, après, c'est parce que les livres, ils ont été très connus et que... Enfin, c'est
il fallait rattraper les films, surtout.
On le dit à chaque fois. À chaque fois, on en parle.
À chaque fois, on en parle. Mais en même temps...
En même temps, oui.
Les films étaient nuls. Je suis désolée.
Ouais. Ils avaient un bon casting, pourtant.
Mais oui.
Mais ça avait du potentiel. Je crois que même Disney a reconnu que c'était nul en faisant la série.
Oui, bon, Disney, ils vont pas dire que c'était bien.
Oui. Soyons réalistes, au bout d'un moment.
Ils vont pas dire que c'était bien, sinon, pourquoi ils faisaient
une
série.
Certes, mais c'est Disney qui faisait les films, non? Qui étaient nuls ou pas?
Non, c'était 20th Century Fox, mais du coup ça a été racheté par Disney.
Ouais.
Donc du coup, quand ça a été racheté, tout le monde s'est dit, ils ont les droits de Percy Jackson, on va faire le bordel sur Twitter.
Okay.
Et visiblement ça marche.
Évidemment.
Voilà.
Et oui, il y a une saison 2 du coup qui se prépare.
Ouais.
Le truc c'est que c'est vraiment, ces sagas, ça a bercé, la Gen Z quoi. Enfin,
Ah oui.
Clairement. Tout ce qui est Harry Potter, Percy Jackson, la Divergente aussi, le Labyrinthe, Hunger Games, vraiment c'est les 5 qui ont bercé l'adolescence. C'était pas fait trop pour les enfants non plus, mais voilà quoi.
Ouais, absolument. Voilà.
A été dévoilée il y a pas longtemps la bande-annonce de Beetlejuice. Maintenant, qui porte ce nom. Avant, ça s'appelait Beetlejuice 2. Mais du coup, ça s'appellera Beetlejuice. Et ça a été dévoilé ce week-end par Jenna Ortega sur Instagram. Donc, c'est un film très attendu parce que la date du premier... le premier film date de 88. Donc, c'était il y a un bout de temps.
Quasi 40 ans.
Ouais. Et surtout, on va avoir la chance de voir Jenna Ortega dans ce film, qui incarnera la fille de Lydia Deetz, qui était initialement jouée par Winona Ryder et qui reprend son rôle. Et également Michael Keaton, qui lui reprend son rôle de Beetlejuice, et Catherine O'Hara, qui elle reprend son rôle de Delia Deetz, qui est la mère de Lydia. Et normalement, le film serait prévu pour septembre 2024.
Ok. Bah, déjà, il y a deux grandes actrices.
Ah oui.
Gina Ortega et...
Ortega.
Ortega et ouais. Winona Ryder.
Ouais.
Et Michael Keaton aussi.
Et Michael Keaton.
Qui a joué un vieux Batman il y a longtemps.
Oui, il y a pas mal d'années.
Oui, mais c'est un grand acteur aussi.
Oui.
Vous avez vu le premier Beetlejuice?
Non.
Non.
Mais du coup, ça me donne plutôt envie d'aller regarder le premier pour aller voir le deuxième.
Oh, il pourrait nous faire des ressorties cinéma du premier. Comme ça, on se prépare pour le deuxième. Ça serait sympa.
Ça serait bien.
Ça devrait être obligatoire. Désolé.
Non, mais surtout quand c'est sorti en 88.
C'est vrai, mais... C'est en 88. Ça a presque 40 ans.
Ce qui est intéressant, c'est que c'est le même réalisateur, surtout.
C'est le même réalisateur. Quasiment les mêmes acteurs. Les trois...
Même si je trouve que Tim Burton est un peu perdu de son jus, comme on dit.
Oui.
Il était un peu original dans les 80-90, là je trouve, c'est un peu
lissé. Oh, ça va, Wednesday c'était bien.
Je sais pas, moi j'avais vu le Dumbo qu'il avait fait.
Oui, bon.
Le Dumbo de Tim Burton.
Oui. Ouais. Il nous a pas habitués à ça d'habitude, mais voilà.
Voilà.
Et du coup. Il y a une autre saga qui va revenir.
On espère.
Pirates des Caraïbes. Alors, Jerry Bruckheimer, désolé, a fait une révélation concernant le prochain opus de la saga. Alors, le cinquième avait eu des résultats plutôt décevants par rapport aux autres.
Bah, il était nul en même temps.
Ah, moi, j'ai aimé.
Bah, la vengeance de Salazar... Ouais.
Mais si, c'était bien.
Je ne l'ai pas vu pour être honnête, donc je ne peux pas donner.
C'était différent des autres.
Bah, Pirates des Caraïbes, en gros, il y a 5 films. Il y a les 3 premiers où c'est classique, comme on dit. Puis les 2 autres n'existent pas. Voilà. Pour moi, c'est ça.
Tu peux pas dire ça.
Je peux l'affirmer. Je peux l'affirmer. Les 4
films. C'est moins bien, mais écoute.
Infâme.
Et alors, du coup, il a dit qu'ils allaient rebooter la saga à comicbook.com. Et il a dit que ce serait plus facile de procéder ainsi car nous n'aurons pas à attendre certains acteurs. Donc, on sait de qui on parle.
Évidemment.
Johnny Depp, qui a... Sa carrière est assez fragilisée à Hollywood depuis le procès très médiatisé contre son ex-femme.
Ouais.
Et donc, voilà.
Mm-hmm. Alors, Johnny Depp, en plus, on peut penser n'importe ce qu'on veut de... Enfin, de ce qu'il a fait ou pas fait ou n'importe quoi, mais... Même en tant qu'acteur, il tient plus la route, quoi. Enfin, je l'avais vu dans le film français dans lequel il a joué la Jeanne du Barry l'été dernier.
Bah, disons que
il a plus le jus, comme on dit, comme Tim
Burton. Les excès qu'il a fait quand il était jeune, ça commence à remonter.
Bah, j'ai l'impression, il a le temps lui fait pas du bien et mais là, il a perdu vraiment. Je sais pas, c'est plus.
Pourtant, c'est un acteur que j'aime bien, que j'aime beaucoup, mais le dernier film, je suis désolée, c'était.
C'est pour ça qu'un reboot de Pirates des Caraïbes, j'adore l'univers de Pirates des Caraïbes, je suis persuadé. Déjà, c'est un univers qui fait voyager,
oui.
Parce que c'est rare. Vous savez, on prend un bol d'air frais un petit peu, on voit les grands océans, la piraterie, c'est ça. On n'a pas souvent des voyages comme ça au cinéma.
Plus de films de pirates aussi, c'est un univers ultra intéressant, je pense.
Oui, et justement, il y a un univers tout un peu mystique et tout dans les Pirates des Caraïbes, avec les mythes, tout ça. Et ça, c'est génial, je trouve. Les scénaristes des 3 premiers, bien sûr, ils ont rendu tout un univers, hein, ça donne envie de le suivre et tout. Alors, problème, c'est que les 2 derniers sont moins bons, et en plus avec Johnny Depp, tout ça, voilà. Mais si on le reboot avec des nouveaux personnages,
ça pourrait.
Je pense que ça pourrait être génial.
Ouais.
À voir. C'est histoire vrai. À suivre.
Ah bah, et ça... oui, tout dépend des scénaristes, réalisateurs et acteurs. Oui.
Mais dans tous les cas, ça va arriver.
Mais j'espère juste que ce sera un bon casting.
Moi, j'espère un bon réalisateur. Parce que pour moi, si les 3 premiers sont bons, c'est grâce au réalisateur qui s'appelle Gore Verbinski.
Oui.
C'est lui qui avait fait Rango. Il avait fait Lone Ranger aussi, qui est assez moyen, mais les scènes d'action sont géniales. Et justement, c'est parce qu'ils avaient un réalisateur aussi bon à filmer l'action et tout, que les trois premiers sont aussi bons. D'ailleurs, le 4 et 5, il est plus là, ça se fait ressentir pour moi. Donc pour moi, le réalisateur est très important dans le Pirates des Caraïbes. Et s'ils prennent un réalisateur qui est moyen, je pense que le reboot n'a aucun intérêt.
Oui.
Je pense qu'il faut qu'il y ait un alignement des planètes, il faut des bons scénaristes, un bon réalisateur et des bons acteurs. Et ça, ça va être compliqué, je pense.
Ouais, bah, écoute.
Mais prions.
Bon réalisateur, des bons acteurs, je pense que ça se trouve quand même, parce qu'il y a quand même pas mal de très bons acteurs.
Oui, mais il faut qu'ils acceptent.
Il faut qu'ils acceptent. Ouais, c'est ça.
En fait, un bon réalisateur, généralement, amène les bons acteurs.
Oui. Donc c'est ça surtout. Il faut le bon.
Il faut qu'il y ait un bon scénario, pas un truc bâclé.
Ouais, comme le 4 et 5.
Oui, d'accord, ça va. Mais moi, j'ai bien aimé. Ça a changé. Bon, bref.
Allez les voir pour vous faire votre propre avis.
Oui, voilà.
Oui, évidemment. C'est pas parce qu'on n'aime pas que vous ne devez pas aimer.
Bien sûr, bien sûr, bien sûr.
Du coup, Margot Robbie a annoncé il n'y a pas longtemps qu'elle avait pour projet de produire un film sur le célèbre jeu de simulation de vie, Les Sims. C'est étonnant, mais pourquoi pas. Ce film va faire partie des nombreuses adaptations de jeux vidéo, en film ou en série, comme Uncharted, qui avait eu avec Tom Holland, Super Mario Bros, ou encore la série The Last of Us. Le film serait prévu pour 2026 et devrait être réalisé par Kate Herron, qui a notamment réalisé la série Loki. Donc, je sais pas quoi en penser en vrai, de ça.
J'espère que ça va être bien parce que les Sims, c'est vraiment un jeu mythique, quoi. Enfin, faut faire Animal Crossing aussi, du coup, maintenant.
Mais vous voyez, tellement... je vois bien un film Animal Crossing dans le style comme Mario, un peu l'animation, je veux dire.
Oui, bah, il faut.
Genre, en prise de vue réelle, ça serait nul.
Non.
Mais en animation.
Oui.
Ah, ça serait bien. Ouais. Après, les Sims, tout dépend du scénariste, tout simplement. Ça va être un scénario pour amener les masses sans grande réflexion ou est-ce que ça va être un scénario un peu à la Barbie où, ok, c'est un blockbuster. Mais à la fois, on essaie de réfléchir un peu sur.
Je pense à un scénario à la Barbie, ça pourrait. C'est ce qui devrait être fait, justement.
Mais je pense que c'est ce qui va être fait parce que si Margot Robbie, elle dit qu'elle veut le produire et tout ça. Parce que Margot Robbie, elle est aussi productrice de films de Barbie.
Oui, oui.
Mais d'ailleurs, c'est Greta Gerwig qui a voulu qu'elle ait le rôle.
Ouais.
Elle ne voulait pas à la base. Elle voulait juste être productrice. Et elle lui a dit non, c'est toi qui vas jouer dedans.
Sinon, il n'y a pas de film, ok?
Mais justement, c'est pour ça que les Sims, je suis plutôt confiant.
Oui.
Voilà. Et Kate Herron, qui avait... Moi, je me rappelle, la saison 1 de Loki était vraiment super bien réalisée.
J'ai adoré.
Ouais.
La saison 2, elle est sortie?
Oui. Octobre dernier, j'ai regardé le premier épisode, puis après, j'ai décroché, mais parce que Marvel, j'ai un peu décroché. Il y a trop de séries. Il y avait eu la série Echo aussi, j'ai toujours pas regardé.
J'ai réussi à finir OK. Mais sinon les autres, She-Hulk, je l'ai jamais terminé.
Ah ouais.
Ouais.
Moi j'avais pas aimé Loki de base donc.
C'est
les goûts et les couleurs.
Ouais, oui, voilà. Ça se discute pas. Et pour finir,
Ron, justement, qui va réaliser un des épisodes, ce sera l'épisode 6 de la prochaine saison de Doctor Who, qui revient. Enfin,
let's go.
Cette fois-ci sur Disney Plus cette année.
C'est parti.
Le 10 mai, ça sera diffusé.
Noté.
Et on a eu une bande annonce du coup de cette nouvelle saison. Donc le 15e Docteur incarné par Shuti Gatoa, accompagné de Ruby Sende joué par Millie Gibson, donc voyage dans l'espace, résout les problèmes de Doctor Who. Quoi. Mais ce qui est intéressant, c'est que vous vous dites sûrement, oh Doctor Who, il y a trop de saisons, il y a trop de personnages, je vais pas comprendre. Ça fait 60 ans que ça existe, je ne vais pas pouvoir le regarder. Alors déjà, ça sera disponible facilement sur Disney+, pas comme avant, où on était obligé de trouver nos propres moyens.
Maintenant, je crois que toutes les saisons sont sur Disney+.
Non, malheureusement, il n'y a que les derniers spéciaux, mais je n'embrouille pas les...
Okay.
Il n'y a que les spéciaux sur Disney+.
Il y a les spéciaux du 60e anniversaire et le spécial de Noël, le dernier, là.
Mais bref, regarde.
La saison qui est diffusée en mai...
Sinon, je crois que les autres sont sur Prime.
Oui.
Je ne suis pas sûre.
La saison qui est diffusée à partir du 10 mai, c'est un reboot de la série. On revient à la saison 1, Saison 1, épisode 1, diffusé donc dans les nuits du vendredi au samedi à 1h du matin. Ça va être diffusé tous les vendredis à 1h du matin. Du coup, dans les nuits du vendredi au samedi.
Ah oui, bah minuit à Britannique, quoi.
Voilà, c'est
oui,
ça.
Oui, voilà, c'est ça.
Mais vous pourrez vous lever et le regarder quand vous voulez. c'est Internet.
Pas besoin d'être réveillé à 1h du mat.
Ouais, voilà, voilà. Et donc, si vous êtes un nouveau téléspectateur, dites-vous, c'est la saison 1. Pas besoin de regarder ce qu'il y a avant. Vous pourrez le regarder plus tard. Là, Shuti Gatwa, Millie Gibson, 15e docteur. Ok, c'est le 15e, mais vous allez tout comprendre. C'est fait pour les nouveaux téléspectateurs, pour qu'ils puissent tout comprendre. Vous pouvez le regarder, il n'y a pas de souci. Montez dans le train avant qu'il soit trop tard, voyez. Et en plus, il y aura 2 épisodes le 10 mai, puis un pendant 6 semaines, puisque la saison 1 fait 8 épisodes.
Oh, c'est court.
Et il y a aussi Stephen Moffat, donc, qui a écrit Sherlock et d'anciennes époques de Doctor Who avec le docteur de Matt Smith, qui est assez connu, qui va revenir pour écrire un épisode. C'est son premier épisode sur Doctor Who depuis 7 ans. Ça va être normalement génial. J'ai trop hâte. Ça a l'air fantastique. Doctor Who, moi, en tant que grand fan, j'ai trop hâte. Shuti Gatwa, il pue le charisme. Il est... et c'est... On l'a vu un peu dans les épisodes qui viennent d'être diffusés, là, mais que vous n'avez pas besoin de les regarder, les nouveaux téléspectateurs. Vous allez tout comprendre sans regarder les anciens épisodes.
Les épisodes le spéciaux. 10
mai, la nuit du 10 au 11 mai, connectez-vous sur Disney+. Regardez l'épisode. Ne cherchez pas à comprendre. Juste regardez, vous verrez. Vous allez tomber amoureux de cette série. Et un nouveau phénomène est en train de se créer. Doctor Who. Nouvel âge d'or.
Il fallait.
Un nouvel âge d'or. Parce il faut que... absolument, comme je vous dis, monter dans le train avant qu'il soit trop tard.
Parce que...
Dernière saison, ils ont redemandé à David Tennant de revenir.
Ah oui. Mais pour le 60e anniversaire, oui, il était revenu, puisque, en fait, comment dire, l'automne dernier, il y a eu 3 épisodes d'1 heure qui ont été diffusés pour célébrer les 60 ans de la série avec un ancien docteur. Mais tout ça, ne vous encombrez pas l'esprit de les nouveaux téléspectateurs de tout ça.
Vous regardez plus tard.
Lancez-vous, voilà. Une fois que vous serez fan, vous allez tout regarder, mais lancez-vous dans la saison.
Alors tout, parce que bon, celle des années 80-60 aussi.
Oui, ça a commencé en 63, Doctor Who.
Oui, donc, voilà.
Même moi, en tant que grand fan, j'ai pas encore tout rattrapé.
Mais moi, les anciens, je les ai pas regardés. Hein.
Mais c'est pas grave. Lancez-vous cette année dans Doctor Who. Tranquillement, à votre niveau, avec Shuti Gatwa, oui, qu'on a vu dans Barbie, qu'on a vu dans Sex Education.
Oui.
Il a le sourire, il est fantastique, cet acteur. C'est
incroyable.
Oui.
J'adore son accent aussi. Rien à voir, mais... Non. Ça fait partie du charisme des acteurs, je suis
désolée.
C'est
vrai, c'est vrai. C'est, vrai. Non, mais il a tout,
c'est
il a
pour
tout
ça
pour
qu'on aime les acteurs britanniques.
Mais là, c'est une série 100% britannique.
Oui. Parce que les anciens docteurs aussi étaient tous britanniques, je crois.
Tous britanniques.
Par contre, ça reste dans le format Disney+, 2 épisodes et ensuite un par semaine.
Oui.
Ils ont trouvé leur format.
Mais c'est coproduit par la BBC aussi. Ça n'a pas les contraintes de Disney habituelles.
Ouais.
Parce que c'est une série de la BBC à la base.
À la base,
en gros, c'est juste la BBC qui a signé avec Disney+, en mode, vous nous donnez de l'argent, en contrepartie, vous diffusez Doctor Who dans le monde entier.
Oui, BBC, ça vient de eux, de toute façon. Enfin,
voilà.
Oui, donc, originalement, c'est une série BBC.
Ce n'est pas contraint par, j'allais dire, les normes de Disney. Mais voyez, Disney, il y a toujours un peu le même polissage, le même, il faut que ça plaise à tout le monde et tout ça. Là, la BBC, ils ont laissé complètement faire les scénaristes. Vraiment, c'est... Vous allez adorer.
On a hâte.
Vous allez adorer.
On a hâte.
À voir, à voir.
Vous en reparlerai en mai.
Ouais,
j'en reparlerai en mai. Je ne vais pas laisser le podcast sans des nouvelles de Doctor Who.
Ça va donner un petit coup de fraîcheur à tout ça, là.
Oui.
On espère que ce sera
bien. Un nouvel âge d'or.
Et bien voilà, c'est tout pour ce mois-ci. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. On se dit rendez-vous en avril pour le prochain épisode. Vous pouvez réécouter ce podcast sur SoundCloud et le site internet de Radio Campus Pau. Restez connectés sur les réseaux sociaux de Radio Campus Pau pour tout savoir de la sortie des podcasts et de la programmation de la radio. À dans un mois.
À dans un mois.
Au revoir.